is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Galère, galère, bonjour, bonjour à toutes et tous. Émission Livres et Amis du mercredi 27 avril. Aujourd'hui, nous consacrons notre émission à un roman policier, un roman noir de Dominique Manotti, paru en 2020. Marseille 73. Le roman vient de paraître en édition de poche dans l'édition Point Policier et à cette occasion a eu lieu au Gyptis le 29 mars la projection d'un film documentaire qui s'appuie à la fois sur le roman et sur les faits réels dont il est tiré. Françoise a assisté à cette projection, a acheté le roman et a voulu vous le faire découvrir. Marseille 73, c'est donc un roman policier fondé sur une réalité historique. Son autrice, Dominique Manotti, a aussi été professeure d'histoire et est devenue écrivaine de polars, polars qui ont tous une thématique sociale, économique et politique. Dans Marseille 73, le jeune commissaire d'Aquin vient d'être nommé à l'évêché, l'hôtel de police de Marseille, où règne, en cette année 1973, les magouilles et les compromissions politiques diverses. La ville, comme le restant des régions de forte immigration algérienne, connaît à cette période une série d'assassinats ciblés sur des Arabes. On leur tire dessus, on leur fracasse le crâne. Entre Nervi de l'OAS, récemment amnistié, et une guerre d'Algérie encore bien présente dans la mémoire des nombreux rapatriés de la région, le contexte n'est guère porteur pour une enquête sur des crimes que beaucoup ne veulent pas voir qualifiés de racistes. Dominique Manotti, après un remarquable travail de documentation, expose toute une série de faits historiques, y projette, avec son grand talent, ses personnages de fiction et quelques personnages fignolés sur mesure pour nous livrer un roman très noir, d'un réalisme et d'une force qui dépasse très largement le simple témoignage sur une époque. La construction de l'intrigue, des intrigues, est d'une précision absolue et permet au lecteur de ne pas se perdre dans cet univers où aucune loi n'est respectée. Une jungle d'arrangements et de compromissions, risquant à chaque instant d'étouffer ceux qui fouinent un peu trop, y compris justement certains policiers honnêtes. En guise de prologue, un rappel des événements de Grasse au printemps 1973.
Grasse, charmante cité provençale, ses fleurs, ses parfums, ses 30 000 habitants et son millier de travailleurs immigrés, souvent tunisiens, ouvriers agricoles, ouvriers du bâtiment, tous travailleurs au noir. À l'automne 1972, le gouvernement français décide de contrôler la population immigrée beaucoup plus strictement qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. La circulaire Marcelin Fontanet impose aux immigrés qui souhaitent entrer sur le sol français ou qui y résident déjà d'être muni d'un contrat de travail et d'avoir un logement décent pour pouvoir obtenir un permis de séjour et ainsi être régularisé. 86% des immigrés présents sur le sol français passent d'un coup de la catégorie des travailleurs au noir à celle des travailleurs clandestins et alimentent du jour au lendemain une catégorie nouvelle, celle des sans-papiers, candidats à l'expulsion dès l'été 73. À l'approche de l'échéance, Ordre Nouveau, mouvement d'extrême droite, nationaliste et néo-fasciste, s'engouffre dans la brèche ouverte par le gouvernement et lance le 9 juin 1973 une campagne nationale « Halte à l'immigration sauvage ».
Oui, « Halte à l'immigration sauvage », c'est d'ailleurs une campagne qui est reprise par l'hebdomadaire Minute. Vous vous souvenez peut-être de Minute, cette espèce de feuille immonde qui paraissait pour souligner en effet tout ce qui était dit par les associations d'extrême droite.
À Grasse comme ailleurs, les travailleurs immigrés se sentent menacés. Ils n'ont ni contrat de travail ni logement décent. Le 11 juin 1973, ils tiennent un meeting en plein air dans la vieille ville où beaucoup d'entre eux sont logés dans des taudis et décident de faire grève le lendemain pour des contrats de travail et des logements décents. Dans la nuit, les murs de la cité se couvrent d'affiches noires et blancs « Halte à l'immigration sauvage », signées « Ordre nouveau ». Le 12 juin, la grève est très suivie et 200 à 300 grévistes se retrouvent le matin devant la mairie de Grasse. Ils demandent qu'une délégation soit reçue par le maire pour lui faire part de leurs revendications. Le maire ne les reçoit pas, réquisitionne les pompiers, fait disperser les travailleurs à la lance à incendie et appelle les CRS en renfort. Dans l'après-midi, des groupes de grévistes déambulent et discutent dans la vieille ville où beaucoup d'entre eux habitent. Vers 16 heures, les CRS interviennent vigoureusement à la matraque contre les groupes de grévistes. Les artisans et commerçants de Grasse, munis de bâtons, se joignent aux CRS. La chasse à l'immigré jusqu'à l'intérieur des maisons dure toute la soirée et une partie de la nuit. Bilan, 5 blessés graves, 200 arrestations. Le lendemain, les habitants de Grasse créent un comité de vigilance des commerçants et artisans, dont l'objectif déclaré est « se débarrasser des 1000 oisifs qui portent atteinte au bon renom de la cité ». Le maire, centriste, déclare à la presse qu'il a convoqué « ces manifestations d'immigrés sont absolument scandaleuses et nuisent à l'ordre public. Il est non moins scandaleux qu'elles ne soient pas plus sévèrement réprimées ». Il ajoute « c'est très pénible, vous savez, d'être envahi par eux ». L'Express, le plus important des magazines d'information nationaux de ces années-là, rencontre des événements sous le titre suivant « Les sorcières de Grasse, quelque chose de grave est en train de naître, qui porte un nom, le racisme ».
Voilà donc pour les événements de Grasse du printemps 73. Le roman, lui, se passe à Marseille du mois d'août au mois d'octobre 1973. Et avant de commencer le récit, qui a donc été organisé comme une fiction par Dominique Manotti, présentons ces personnages. Le premier, c'est donc le commissaire d'Aquin, commissaire qui trouve à Marseille son premier véritable poste dans la PJ, la police judiciaire. Il est donc très jeune, il est d'origine aisée, d'esprit ouvert, bisexuel, épicurien, appréciant la vie dans sa nouvelle ville, mais encore étranger aux yeux des policiers marseillais. Ses adjoints, Delmas et Grimbert, sont des policiers honnêtes et compétents, bien insérés parmi les autres policiers de l'évêché, comme on dit, mais les autres, donc policiers de l'évêché, sont pour la plupart des policiers véreux ou compromis dans des relations très proches avec le milieu de l'époque. Par exemple, le Gros Marcel qui n'est que brigadier, mais qui semble un pivot inébranlable du système. Un critique littéraire de la littérature policière nous dit par exemple « L'évêché possède une chaîne de commandement officielle qui ne compte guère que pour la galerie et une seconde officieuse tenue d'une main de fer par un simple brigadier, le gros Marcel, au courant de tout, entouré de ses conseillers tel un parrain mafieux, décidant dans les arrières-salles de bistrot des suites à donner aux affaires, des promotions ou des flics à écarter lors des enquêtes. Et il apparaît vite à Daquin et à ses hommes que le gros Marcel ou quelques-uns de ses fidèles n'ont aucune envie que les enquêtes soient menées normalement et permettent effectivement de déboucher sur la vérité. » Donc, autour des services de l'évêché, gravitent aussi des policiers qui sont les policiers des commissariats des différents arrondissements, qui sont chargés au quotidien du maintien de l'ordre, mais qui sont très souvent gangrénée par des idées politiques proches de l'extrême droite ou très liée à des activistes d'associations de rapatriés ayant conservé toute leur pensée de suprématisme blanc, de racisme primaire. Donc, on voit bien la liaison avec, du côté des civils, par exemple, le fait que Dominique Manotti nous montre ou nous met en scène des associations d'extrême droite qui rêvent de devenir paramilitaires et qui possèdent déjà, par exemple, des stands de tir légalement autorisés. Côté civil aussi, le commissaire d'Aquin, lui, n'a qu'une vie sociale plutôt restreinte. Il fréquente des milieux marseillais bourgeois, discrets. Et finalement, dans le livre de Dominique Manotti, la société marseillaise, enfin on pourrait dire le pan de la société marseillaise qui est le mieux décrit, le mieux évoqué, c'est ce milieu des immigrés algériens, des travailleurs immigrés donc, dont sont originaires les victimes des assassinats de l'époque, et l'une surtout, un adolescent abattu au début du roman et autour de qui va se construire l'histoire. Les relations entre le commissaire d'Aquin et la famille de Malek Kider sont au cœur de l'intrigue policière, de même en parallèle que les imbroglios policiers et judiciaires des différentes affaires évoquées. Dominique Manotti a bien sûr modifié les noms des personnages ou des associations autour desquelles elle organise son suspense. De façon un peu bizarre aussi, elle a modifié par exemple les noms des journaux de l'époque, donc c'est assez surprenant parce que nous qui connaissons en fait les journaux de Marseille à cette époque-là, qui ont parfois disparu, comme le Méridional par exemple, on a bien des citations du Méridional, mais on a aussi des citations de, par exemple, le Quotidien de Marseille. Alors, ben non, il n'y a jamais eu de journal qui s'appelait le Quotidien de Marseille. Ça paraît un peu bizarre qu'elle crée comme ça un journal. C'est un peu pour représenter la presse de façon générale et pour faire tenir des propos dans la presse qu'elle peut ne pas attribuer à des personnages particuliers. Mais enfin, ça donne un peu une histoire, une image de ville maquillée qui serait celle d'un feuilleton nommé, par exemple, « Plus tragique la vie ». Ben oui, pas « Plus belle la vie », mais « Plus tragique la vie ». Donc, dans « Plus tragique la vie », ben, il se passe un certain nombre de choses qui, en effet, font référence à des événements tout à fait tragiques. On va d'abord lire, pour la mise en situation, une scène qui nous présente l'équipe du commissaire d'Aquin.
Jeudi 23 août, l'équipe d'Aquin fait le point sur l'enquête UFRA.
Ah oui, l'UFRA, en fait, ça aussi c'est une association donc créée de toutes pièces pour la fiction. C'est l'Union des Français replacés d'Algérie. Alors effectivement, c'est assez rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo du tout, mais au lieu de s'appeler rapatrié, il s'appelle replacé.
Bon, je demande à Dominique tout de suite, non, mais où est-ce que je m'arrête?
Là.
Ah ben c'est pas marqué. L'équipe d'Aquin fait le point sur l'enquête UFRA. Grimbert a deux pistes sérieuses à creuser. Le commissariat du 15e arrondissement peut être en lien avec la bande à Susini. D'Aquin et Delmas marquent le coup. On est dans le haut de gamme.
Oui, Susini, c'est aussi une affaire fictionnalisée, mais en fait une affaire du grand banditisme marseillais.
Une autre piste, le brigadier Picon que j'ai croisé. J'étais à la tenue quand il est arrivé en 62. Ce n'est pas un bon flic, il n'est pas fiable, pas attentif, pas patient. Mais il a une forme d'astuce et de sens du contact qui lui a permis de faire carrière. Il navigue dans l'entourage proche du gros Marcel, qui a besoin de lui comme passerelle avec les pieds noirs. Et comment va-t-il réagir, le gros Marcel? Pas de souci, je l'ai vu, j'ai mon laissé-passer. À vous, Delmas. Je me suis intéressée à Asensio, le responsable des Bouches-du-Rhône de l'UFRA. Une trajectoire exemplaire, on va dire. Il avait une belle entreprise de commerce de vin à Oran, marié, sans enfant. Sa femme meurt en 1960. Il arrive à Marseille en 1961, dans la première vague de rapatriés. Il a alors 45 ans et a tout perdu en quittant l'Algérie, mais il la quitte avant la grande vague et s'installe à Marseille. Moins d'un an après, coup de génie, il s'associe avec un Corse, pas courant pour un pied noir, pour acheter une concession Peugeot. C'est d'autant moins courant que son associé, Baptiste Paolini, est un proche de Charles Pasqua, un gaulliste de la première heure et un des fondateurs du SAC, le service d'ordre gaulliste, qui à cette époque mène une guerre secrète et violente contre les opposants à De Gaulle, dont les plus virulents sont des hommes de l'OAS, très mêlés au milieu pied noir. Paolini devient très vite une figure du SAC.
Ouais, le SAC, ils n'étaient pas seulement opposés à l'OAS, hein, ils faisaient aussi pas mal de coups de force contre les colleurs de la CGT, des partis de gauche, etc.
J'ai trouvé des articles et des photos dans les journaux. Ascendance Corse oblige, il rend aussi quelques services aux Guérini, les patrons de la pègre marseillaise, ce qui laisse des traces légères dans son casier judiciaire. Tandis qu'Asensio, dans le même temps, développe ses relations avec les associations de pieds noirs et devient l'ami avec Alvarez, le fondateur de l'UFRA. Je suis passée à la Chambre de commerce où j'ai trouvé un document qui fait l'apologie de la concession Peugeot et qui nous donne en plus quelques repères. L'entreprise grossit et elle se diversifie. En 1965, quand Pasqua quitte Marseille pour monter à Paris, Paolini se rend à Abidjan pour y ouvrir une filiale de vente de Peugeot neuves et d'occasion. Deux ans plus tard, il crée une autre filiale à Marseille, consacrée à la location de voitures de luxe et de leurs chauffeurs gardes du corps, qui compte 6 ou 7 véhicules. Il a une clientèle de milliardaires de passage dans toute la région, jusqu'aux environs de Nice. Ça a l'air de marcher très fort. Pour en revenir à Asensio lui-même, il n'a pas de problème de fric. Il loge dans l'immeuble de l'UFRA, un appartement qu'il a acheté au moment où l'association installait ses locaux dans le même immeuble. La secrétaire salariée de l'association, Nadia Mokrani, habite aussi dans le même immeuble. Je me demande s'il n'y a pas une combine de fric derrière.
Bon, voilà l'ambiance. Enquête sérieuse, affaire véreuse, mais aussi, tout de même, pour la base du livre, bien sûr, de véritables tragédies comme celle qui est évoquée par des extraits de presse à partir du dimanche 26 août.
Quotidien de Marseille, sur toute la une. Tuerie dans un bus, 14h30, rocade du Jarret. Dans un accès de démence, un passager égorge le chauffeur à son volant et poignarde 4 passagers. Il est maîtrisé par plusieurs témoins, dont Gratien Lamperti, l'ancien champion de boxe, après une courte poursuite. Le conducteur aurait simplement demandé à son agresseur de lui régler le montant du transport. Photo de l'autobus tragique. Très vive réaction des traminots marseillais. Arrêt de travail dès hier, grève générale aujourd'hui. Sur toute la dernière page. Tragédie sur la ligne 72. Il est 14h30. Émile Gerlache, 49 ans, 4 enfants, conduit son autobus sur la ligne 72 de la RATVM, de la place Bougainville à la promenade de la plage. À l'arrêt Jarret-Meyère, Salah Bougrine monte, composte son billet, va s'asseoir. L'autobus redémarre. Bougrine sort de sa poche un grand couteau, s'approche du chauffeur par derrière et lui tranche la gorge d'un seul coup de couteau. Le sang jaillit sur le pare-brise. Le chauffeur s'écroule. Bougrine s'acharne sur le corps. C'est la panique dans l'autobus. Les passagers se lèvent, se bousculent. L'autobus continue à rouler tout seul. L'Algérien flanque des coups de couteau au hasard sur les passagers. On glisse dans les flaques de sang. L'autobus heurte le terre-plein central et se couche à demi. Les portes se coincent et les passagers tombent les uns sur les autres. Un automobiliste qui passe par là, Gratien Lamperti, l'ancien champion de boxe, s'arrête, s'arme d'une manivelle, parvient à grimper dans l'autobus et assomme Bougrine. Le commissariat du quartier et la brigade anti-gang de la sûreté arrivent sur les lieux Ils le prennent en charge, il est conduit inconscient à l'Hôtel Dieu. Bougrine avait 2500 francs sur lui, on ignore ce qu'il faisait à Marseille.
Oui, alors là, évidemment, c'est le fait divers opposé, un dément, mais qui est nord-africain, qui a commis un acte de violence complètement incompréhensible et évidemment qui donne la part belle à toutes les déviations d'information. Allons voir ce qu'en dit la presse quelques jours plus tard, en fait le lendemain et le surlendemain.
Quotidien de Marseille, en une. Le meurtrier, toujours dans le coma, n'a pu être interrogé. Communiqué des syndicats de traminots. Les funérailles de Gerlache auront lieu mardi 28 août à l'église Saint-Émilie de Vialard, dans son quartier de la Pauline. Les syndicats appellent la population par amitié pour Gerlache et pour protester contre les conditions d'insécurité dans lesquelles travaillent les traminots à s'associer à ces funérailles par un arrêt de travail. Le fait que l'assassin soit un travailleur immigré ne doit pas conduire au développement du racisme. Beaucoup d'agresseurs ne sont pas des Nord-Africains. En page 2, publication de quelques communiqués de soutien. Le personnel des services de maintenance de la ville de Marseille dit son émotion et sa solidarité. Il réclame un contrôle plus rigoureux de l'immigration dans notre pays. Le Front National, le GUD, ULN, UGT et le Comité de défense des Marseillais appellent à une manifestation de protestation contre l'immigration sauvage le mercredi 29 août. D'Aquin monte très tôt à l'évêché. Sur les murs du panier, des affiches noires et blancs, halte à l'immigration sauvage, des slogans peints à la main et un mot ressort de mur en grosses lettres noires, peur. Une certitude, la tempête s'est levée sur la ville et ça va secouer. Que devons-nous faire, mon équipe et moi ?
Donc, grande interrogation, bien sûr, pour les policiers qui ne veulent pas se laisser aller à des dérives. Mais ces dérives, c'est ce qu'ils craignent, et c'est ce qu'ils craignent en particulier lorsque il va y avoir les funérailles du chauffeur du bus. Donc les funérailles du chauffeur du bus se passent sous haute surveillance.
La tragédie du bus. Le meurtrier avait été trépané en 1969. Il apparaît que Bougrine avait subi une agression à la hache en 1969, qui avait nécessité une trépanation, plusieurs opérations et une longue période d'hospitalisation. Ce handicap physique pourrait expliquer, dans une certaine mesure, son comportement dément dans l'autobus. Funérailles à 12 heures, les traminots. Nous ne permettrons pas que les obsèques de notre camarade soient prétexte à des manifestations. En dernière page, communiqué du préfet de police. Il serait regrettable qu'à la suite d'un événement aussi grave, le public, dans un excès de légitime colère, se laisse aller à des actes indignes de son histoire.
Légitime colère, c'est quand même intéressant.
Avant de partir à l'évêché, D'Aquin jette un dernier regard sur le vieux port à ses pieds. L'eau glauque, immobile, les quais déserts, pas un bruit, pas un mouvement. La vie est suspendue. La ville ne respire plus. Dans une poignée d'heures, elle va enterrer Émile Gerlache. Elle attend, elle pue le sang. Quand D'Aquin entre dans le bureau, à la PJ, Grimbert et Delmas s'apprêtent déjà à partir pour suivre l'enterrement. Mission d'observation. D'Aquin, lui, est de permanence au commissariat central jusqu'au petit matin, dans l'attente. « Vous allez manquer un grand spectacle, patron. Les Marseillais sont les champions des cérémonies d'enterrement. Pour dire vrai, je ne suis pas fâché d'échapper à la grande fête de la mort version soleil et aïoli. Vous me raconterez, je vous fais confiance. Au fait, quand vous serez seul, patron, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans le tiroir de votre bureau. Vous y trouverez quatre très jolis micros venus de nulle part et l'appareil enregistreur qui va avec. Je n'y manquerai pas. Pendant que les deux inspecteurs finissent de ramasser et de ranger leurs affaires en silence, D'Aquin demande. Dites-moi, Grimbert, j'ai lu l'édito du Méridional. Vous savez si le journal fournit les armes avec ? Allez savoir. Aux abonnés, peut-être. Et avec la bénédiction du préfet de police, dont vous avez dû lire aussi le communiqué. Bien, la légitime colère. Partez tous les deux, vous allez manquer le début de la fête, ce serait dommage. Mais Grimbert, Dès que c'est fini, revenez me faire votre rapport sans faute.
Donc jusqu'à là, en effet, fonctionnement, on pourrait dire, de routine de la police, surveillance, surveillance du cortège, surveillance de ce qui se passe, surveillance des différents éléments. Et puis, ce à quoi fait allusion l'histoire des micros, en fait, mise en place d'une écoute à destination d'une association d'extrême droite qui, comme on l'a vu tout à l'heure, détient un stand de tir et, disons, peut donner lieu à des dérives armées. Donc, en fait, surveillance globale de la foule et dans la foule elle-même, précisément, les policiers vont relever de très nombreux propos racistes. Par exemple, là, moi, j'avais relevé « Aujourd'hui, les Algériens sont plus nombreux en France que les Français et, plus nombreux que les Français n'ont jamais été en Algérie. Je pense qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Le seuil de tolérance est dépassé. » Donc, ce genre de propos racistes, un petit peu comme on l'avait vu dans les faits historiques des manifestations à Grasse, c'est un propos, ce sont des propos plutôt qu'on va retrouver évoqués par Dominique Manotti très fréquemment dans sa fictionnalisation des événements. Et on retrouve aussi, je vous l'avais dit tout à l'heure, le fait que des journaux qui étaient à l'époque de véritables moyens de presse, donc, sont évoqués et pas toujours très positivement. Alors là, elle parle du Méridional.
Le rédacteur en chef du Méridional, Domenech, se situe à peu près, très proche des anciens de l'OAS, donc de Pereira. Mais le propriétaire peu regardant, qui est-ce ? Un peu plus compliqué, c'est De Fer, depuis déjà 2 ou 3 ans. De Fer ? Le maire socialiste de Marseille ? Tu te fous de moi ? Pas du tout. 100 000 pieds noirs à Marseille, ça fait beaucoup d'électeurs. À leur arrivée, ils n'en voulaient pas. Il a cherché à les empêcher de s'installer. Mais maintenant qu'ils sont là, pas question de les négliger. Il faut trouver des intermédiaires pour garder le contact. Pereira est l'homme idéal. Il trouve De Fer pas regardant et lui ne l'est pas non plus. Ils sont faits pour s'entendre. Suite au prochain numéro. Ici, c'est Marseille.
Ouais, ici c'est Marseille, donc ici c'est Marseille, il y a un certain nombre de compromissions ou de recoupements politiques, en effet peut-être assez surprenants. On va, avant d'aller plus loin et avant d'aller vers l'intrigue principale du roman, mettre un peu de musique. En fait, jusqu'à présent, l'autrice a créé l'atmosphère, elle a mis en place un climat tendu, un climat vraiment négatif pour l'ensemble de la population. Et à partir de là, va se mettre en place véritablement la tragédie qui est le centre de l'histoire et toute l'enquête qui en découle et la façon dont ces enquêtes, en effet, peuvent être manipulées. Donc la musique, vous reconnaîtrez peut-être, c'est celle d'un autre policier, un film policier de l'époque, Le clan des Siciliens.
Thank you.
Mise en place du suspense, donc. Suspense, puisque nous en venons maintenant à l'événement central du livre, l'assassinat d'un jeune maghrébin dans sa cité. Donc, Malek Kider est assassiné par arme à feu et nous allons avoir ce récit.
Malek, il a dû batailler ferme pour obtenir le droit de sortir après le dîner. Son frère aîné ne voulait pas. « Pas ce soir, disait-il, la peur rôde dans les rues. À la nuit tombée, les Arabes se font tuer. » Malek n'a pas peur. De quoi? Pourquoi? Le bar tabac du terminus, c'est pas loin de chez nous. On est entre nous, qu'est-ce qui peut arriver? Il a dû promettre de rentrer de bonne heure. Et il est toujours là. Elle n'est pas venue, pas encore. 11 heures du soir, le bar va fermer. Le patron est en train de laver et de ranger avec l'aide de deux jeunes qui lui donnent un coup de main contre quelques pièces. Malek jette encore un regard au boulevard sur sa droite. Il imagine voir la silhouette d'Anita qui avance vers lui en ondulant. C'est un rêve. Une voiture rouge suivie d'une grosse Mercedes crème passe au ralenti devant le café en descendant le boulevard Pomont. Deuxième passage. La voiture rouge s'arrête le long du trottoir devant Malek. Le passager assis à l'avant ouvre la vitre coulissante et l'interpelle en arabe. « Nous sommes perdus. Nous ne connaissons pas le quartier. Tu peux nous aider ?» Malek se laisse glisser au sol, s'approche, se penche. Le passager lève le bras, tire une balle à bout portant en pleine poitrine. Le corps de Malek est projeté en arrière. Dans le bar, le patron sursaute, tend l'oreille. Une deuxième balle touche le ventre, explose le sternum, le corps bascule. Le patron et les deux jeunes lâchent balai et serpillière. La voiture rouge démarre en force. Une troisième balle frôle une épaule. Les trois hommes atteignent la terrasse du café, aperçoivent le corps ensanglanté. À une vingtaine de mètres, une Mercedes beige et une autre voiture s'éloignent. Elles tournent toutes deux au croisement suivant et disparaissent. L'opération à partir du premier tir a duré 12 secondes. Pendant que les deux jeunes se précipitent vers le corps de leur copain, le patron rentre téléphoner aux marins-pompiers et au commissariat de police du secteur. Puis, il descend sur le boulevard, s'approche du corps inerte, découvre le sang qui coule des blessures, qui imprègne les vêtements, macule le visage, se répand sur le trottoir. Il pose une main sur l'épaule de Slimane qui sursaute. « Va prévenir sa famille, mon gars. Tu sais où ils habitent. » Mohamed, l'aîné de la famille, prend Adèle, son cadet, dans le bras, par le bras, le pousse vers l'ambulance. Tu restes avec lui, tu ne le lâches pas une minute. Adèle ne discute pas les ordres de l'aîné, jamais. Il se détourne, fait trois pas mal assurés, vomit tripes et boyaux au milieu du boulevard, puis marche vers les pompiers qui le regardent venir. Pas flambard. Complication en vue. Montez devant avec le chauffeur, personne à côté de la civière. Il ne faut pas gêner le travail des secouristes. Il s'exécute, soulagé et honteux de l'être. Mohamed est resté debout, hébété, à côté des flaques de sang sur le trottoir. Il sent grandir dans son corps la séparation, l'absence, le vide irréparable. Un policier vient vers lui. « Et vous, qui êtes-vous ? » Mohamed sursaute. « Que faites-vous ici ? » ?»« Je suis le frère de la victime. Ne restez pas là, vous polluez la scène du crime. » Nous n'avons pas fini notre travail. Allez dans le café. Mes collègues prendront votre déposition. Ensuite, rentrez chez vous. Vous n'avez rien à faire ici. Mohamed entre dans le café qu'il n'a jamais fréquenté. La salle est quasiment vide. Les tables et les chaises, du mobilier bon marché, sont entassées dans le fond de la pièce. Le sol a été lessivé à grande eau et sent encore la javel. Les lumières du bar, sur le côté gauche de la pièce, sont toutes éteintes. Et le comptoir est recouvert d'un grand drap blanc. Au moment où Mohamed entre, les deux policiers referment leur bloc, l'un dit à l'autre. En résumé, ce sont les seuls témoins. Ils étaient tous les trois dans cette pièce. La fusillade se déroulait sur le boulevard. Ils n'ont rien vu. Affaire vite classée. Les trois témoins les écoutent, puis s'éloignent vers l'obscurité et la cabine téléphonique. Mohamed s'approche des policiers. Qui êtes-vous ? Lui demande-t-il. Le frère de la victime. Ils rouvrent leur bloc-notes. Son identité et son domicile. Ceux de Malek. Les conditions dans lesquelles il a été prévenu des événements. Tout se recoupe avec la déposition de Slimane et semble clair. En quelques minutes, Mohamed est libéré. Vous pouvez rentrer chez vous, on vous contactera. Il sort du bar, fait quelques pas sur la terrasse, en somnambule, s'arrête. Il est exactement à l'aplomb de l'endroit où son frère a été abattu. Deux policiers travaillent à délimiter une toute petite portion de trottoir, une scène de crime, de poche, avec un ruban de plastique jaune marqué « police », comme ceux qu'il a déjà vus à la télé dans les films policiers. Deux autres se déplacent à l'intérieur de cette scène de crime, au hasard, semble-t-il, les yeux au sol. L'un d'eux annonce « Ça y est, j'en ai une ». Il se penche, ramasse un objet à main nue, le montre aux autres policiers, une douille. L'objet passe de main en main avant d'être déposé dans un sachet en plastique. Peu après, l'autre policier annonce « J'ai la deuxième » et montre son trophée. Les témoins nous ont dit deux coups de feu, nous avons deux douilles, le compte est bon. Ils ont fini, les bureaucrates dans le café, il est tard, on lève le camp.
Voilà, donc c'est le centre du roman, à défaut d'être celui de l'enquête. Le commissaire Daquin, informé un peu plus tard par le patron du café, va montrer que les premières constatations ont été bâclées et reprendre l'enquête.
Au bar, ça discute beaucoup en ce moment. Des Algériens meurent presque tous les jours. Les policiers ne cherchent pas beaucoup. Mes clients disent « Le numéro de la permanence, ça marchait mieux que le commissariat. » C'est pour ça que quand j'ai vu comment ils faisaient, j'ai appelé la permanence.
La permanence, c'est donc la permanence de la police judiciaire à l'évêché et c'est comme ça que Daquin a été informé.
Daquin et Delmas se concertent quelques instants, puis Daquin. « Rentrons dans le café boire le thé. Vous nous raconterez tout ce qui est arrivé depuis le début. Nous ferons un rapport, le plus complet possible. Après, c'est un magistrat qui choisit l'équipe de policiers qui se charge de l'affaire. Donc c'est sans garantie, d'accord ?»
En fait, désormais, l'opposition des analyses des différents services est au cœur du récit. Certains veulent minimiser les faits, on l'a vu très vite, et Daquin et ses adjoints recherchent au contraire la vérité de façon beaucoup plus approfondie. Très vite, il apparaît que cette vérité risque de déranger. C'est ce qui apparaît dans le premier rapport du procureur qui laisse l'affaire à la sûreté. Donc la sûreté, c'est le service habituel et non pas à la PJ. Et donc, cette communication officielle du procureur, on va la lire puisque c'est ce qui fait le fondement de l'enquête ensuite, de même que c'est ce qui fait le fondement aussi des informations qui seront données aux journalistes et donc au public.
J'ai transmis au procureur votre rapport de permanence sur l'assassinat de Malek Kider. Et je suis allée au point presse qu'il tenait cet après-midi à 15h. Il a informé les journalistes et les quelques collègues présents qu'il ouvrait une enquête en flagrance sur les causes de la mort. Au fait, vous saviez que le jeune Kider était mort dans la nuit ? Nous nous en doutions. Et nous avons une idée assez précise sur les causes de sa mort. Deux balles de gros calibre en plein thorax à bout portant. Il n'est pas mort de chagrin. Quelques journalistes ont posé des questions sur la vague de violence à Marseille qu'ils ont qualifiée de raciste. Certains d'entre eux ont même évoqué le meurtre du vallon d'Étuve, dont je n'avais pas entendu parler. C'était avant votre arrivée, j'étais de permanence. Nous avons contacté le procureur qui nous a répondu qu'il confiait l'enquête à la sûreté. Aujourd'hui, le procureur a répondu que les enquêtes étaient en cours et que le caractère raciste de ces agressions n'était pas établi, pas plus pour Kider que pour les autres morts de ces jours-ci. Coup d'œil vers Daquin et Delmas, qui ne commentent pas. Ensuite, le préfet de police a transmis la position officielle du gouvernement. Il n'y a pas de vague de racisme en France. Il faut donc ne pas parler de crime raciste tant que l'enquête ne l'a pas clairement établi. Dans la quasi-totalité des cas évoqués, ces temps-ci, il s'agit de règlements de compte entre coreligionnaires, de bagarres, d'accidents et peut-être même parfois de suicides. Donc, très logiquement, le procureur ne mobilise pas la PJ sur ce genre d'incidents de proximité. La sûreté, avec sa brigade d'outre-mer spécialisée dans la surveillance des Nord-Africains, lui semble mieux équipé que nous, à la PJ, pour bien connaître cette population particulière. Fin de l'entretien. Les deux hommes rejoignent leur bureau sans un mot. Quand ils entrent, Grimbert se lève. « Ne dites rien, le gros Marcel m'a prévenu. La sûreté garde la main. » « Oui, officiel, la PJ est hors jeu. » Il fallait s'y attendre, comme sur tous les autres meurtres d'Algériens. « Tu t'es renseigné sur leur nombre ?»« J'ai essayé. C'est difficile d'être précis. » « Tu en dénombres combien ?» Les chiffres sont fluctuants. Sur Marseille-Ville au sens strict, les chiffres officiels donnent 3 morts depuis le 14 août, date de l'assassinat du Vallon d'Étuve, jusqu'à l'assassinat de Gerlache le 24 août. 2 meurtres par balle, un troisième le crâne défoncé. Du 24 août au 28 août, entre l'assassinat de Gerlache et son enterrement, nous avons encore 2 assassinats de maghrébins, un cadavre retrouvé sur le vieux port sans plus de précision et un crâne explosé à coups de pierre. Et 3 morts de nouveau cette nuit et ce matin. Un Algérien abattu à la hache, un noyé dans le vieux port, des pierres aux pieds et notre Malek Kider tué par balle. Au total, 8 morts en 15 jours. Une bonne moyenne d'un mort tous les 2 jours. Mais ce sont les chiffres officiels. La réalité est très probablement différente. De temps à autre, on retrouve un corps d'Algérien abandonné depuis quelque temps dans un endroit désert ou au fond de l'eau, sans trop savoir quand ni comment il a été tué, accident, suicide peut-être. Donc, on ne le compte pas dans les chiffres officiels de la vague de meurtres en cours, puisqu'on ne sait pas. De même, si un blessé survit plus de 24 heures avant de mourir, sa mort sort des statistiques des morts. Et personne ne fait le décompte des blessés. Quand il y a une fusillade contre un groupe de maghrébins, par exemple, ou contre un homme isolé, et qu'on ne relève pas un mort ou un mourant, les statistiques officielles notent simplement « pas de victime ». Et nous avons eu, sur les 2 mois d'été, une bonne vingtaine de fusillades contre des cafés ou des foyers algériens, ou contre des groupes ou des individus immigrés dans la rue, sans parler de quelques incendies criminels contre des foyers ou des entreprises. Sur ces agressions, aucun chiffre publié. En fait, depuis l'affaire de Grasse, le 12 juin dernier, il y a eu pratiquement tous les jours des incidents violents à Marseille et dans ses environs immédiats, dont les victimes sont toutes des Nord-Africains, comme le disent les statistiques officielles. Et pour être plus précis, jusqu'ici, la très grande majorité des victimes sont algériennes. Ces tirs ne doivent sans doute rien au hasard. La guerre d'Algérie n'est pas finie. Delmas demande « Comment se fait-il que la presse n'ait rien répercuté avant ces tout derniers jours et que nous ne soyons pas tous mobilisés pour mettre fin au massacre ? Encore mieux, nous, à la criminelle, nous ne sommes même pas au courant. » Parce que le gouvernement, le procureur, la sûreté cadenassent l'information et les journaux prennent leurs sources pour l'essentiel auprès de la sûreté. Grimbert, appelons un chat un chat. Nous sommes confrontés ici à Marseille à une vague de terrorisme anti-immigré maghrébin dans le prolongement de la guerre d'Algérie et sans doute dans le prolongement du terrorisme de l'OAS. Et apparemment, la consigne donnée à la police et à la justice est de regarder ailleurs. Cela ne peut pas être sans conséquences. Les répercussions seront lourdes sur la société, mais aussi sur le fonctionnement de nos services. Vous le savez aussi bien que moi.
Voilà, une véritable étude sociologique à propos des faits divers qui se produisent. Et une véritable orientation très biaisée de l'enquête, donc mise en avant dans le roman. Information très biaisée, confirmée par les informations que le procureur donne à la presse et qui paraissent donc de cette façon-là dans la presse. C'est ce qu'on voit dans un extrait du quotidien de Marseille, entre guillemets, le jeudi 30 août.
En page 5, le procureur de la République a ouvert hier une enquête en flagrance sur les causes de la mort du jeune Malek Kider, blessé le 28 août par balle dans le quartier de la Calade et décédé le 29 août à l'hôpital de la Timone, où l'avaient transporté les marins-pompiers de Marseille. Cette enquête a été confiée au service de police de la Sûreté. Des sources proches de l'enquête nous ont indiqué que ce jeune homme était connu des services de police pour des vols de mobilettes et de voitures, ce qui rendrait plausible la piste d'un règlement de compte qu'explorent actuellement les enquêteurs. Dans la nuit du 28 au 29 août, un Algérien, SG, avait été blessé d'un coup de hache à la tête pendant qu'il marchait le long de la ligne de chemin de fer. Il est mort à l'hôpital où il avait été transporté. Il s'agit apparemment d'un règlement de compte.
En fait, c'est donc la thèse officielle pour un certain nombre de crimes ayant été commis. C'est dans le cas de Malek Kider, des histoires de petits délinquants entre eux, des histoires de règlement de compte. Et c'est donc ce qui est mis en avant pour, disons, détériorer la gravité des faits ou minimiser la gravité des faits. Pourtant, la famille de Malek Kider est soutenue par de nombreux travailleurs immigrés, en particulier des associations de travailleurs algériens. Elles s'organisent et elles organisent des arrêts de travail et même à un moment donné une grève nationale pour mobiliser l'opinion contre les informations fallacieuses.
Personne à La Ciotat ne croit un mot de ce qu'il y a dans le journal. Hier soir, une grève de tous les travailleurs arabes des chantiers navals a été décidée pour protester contre l'assassinat de Malek et l'incendie de notre entreprise. Au mot « grève »,« assassinat », »,« Malek », Mohamed sursaute, se redresse. C'est possible de la faire, cette grève ? Ce n'est pas possible, c'est certain. Demain, les chantiers navals s'arrêtent pour Malek. C'est ici, à Marseille, en France, qu'il a été assassiné. C'est ici qu'il faut lui rendre hommage. Montrons-nous. Accompagnons son corps en cortège depuis votre appartement jusqu'au port. Courage, Mohamed, pour ton frère. C'est impossible. Ici, nous avons très peu d'amis, pas de famille. Nous nous ferons massacrer en ville. Ici, personne ne veut d'un cortège d'Algériens dans la rue. Non, ce n'est plus comme ça que les choses se passent. Tu as entendu parler de la grève de la faim des Tunisiens en mars dernier ? Oui, on en parlait beaucoup au travail. Une vingtaine de Tunisiens, j'y étais. Je le sais, tout le monde le sait dans l'entreprise. Le gouvernement, avec sa nouvelle circulaire, veut faire de nous tous des clandestins. Et les clandestins, ils les chassent, ils les expulsent. Ils les terrorisent par tous les moyens et ils le font avec l'aide des fachos. Tu as vu les affiches fachos ? Halte à l'immigration sauvage ? Nous ne sommes ni des clandestins ni des sauvages. Nous sommes des travailleurs. Nous, les Tunisiens, nous nous sommes mis en grève de la faim pour obtenir des papiers et vivre dignement. Mais nous n'aurions jamais gagné si nous avions été seuls. Des gens de ce pays sont venus nous aider. L'archevêque de Marseille nous a soutenus et nous a prêté des locaux. C'est pas rien. Des cathos, des protestants nous ont accompagnés et ont soutenu notre grève de la faim pendant tout le temps qu'elle a duré. D'autres Français, des militants d'extrême gauche, nous ont protégés. Quand les fachos ont attaqué notre grève de la faim à la matraque et au pistolet, il y a eu une bataille rangée dans la rue. Les militants français l'ont gagnée. Les fachos ne sont pas entrés. Ils ont été chassés. Nous avons pu continuer notre grève. Si les militants d'extrême gauche n'avaient pas été là, les fachos nous auraient massacrés. Mais ils étaient là. Et deux jours après, nous étions tous régularisés. Samedi, tu ne seras pas seul, je te le promets. La dignité, c'est une bataille et avec toi, nous allons la gagner.
Donc, l'organisation des travailleurs, c'est vraiment ce que mettent en avant les syndicats ou, comme ici, les associations de travailleurs algériens. Donc, ce sont ces organisations qui vont lutter contre, disons, les fausses informations qui pourtant sont relayées par la police et la justice. On va juste lire à nouveau un petit passage sur l'organisation des mouvements sociaux. D'abord, un extrait de presse.
Aix-en-Provence. Dans la nuit, trois inconnus à bord d'une deux chevaux ont ouvert le feu sur un groupe de Nord-Africains dans les environs d'Aix-en-Provence. Cette même nuit, trois hommes ont tiré cinq coups de feu contre la cité de transit de la Pioline, où loge une cinquantaine de familles nord-africaines. La gendarmerie, chargée de l'enquête, a recueilli 5 doutes de 765. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Explosion mystérieuse à la cité ouvrière de l'Abeille. S'agit-il d'un acte de vengeance de la part d'un coréligionnaire? D'une mauvaise plaisanterie? La gendarmerie enquête. 5h30 du matin. Il fait encore nuit. La masse noire du chantier de la Ciotat, enfermée dans ses grilles, se découpe nettement dans le ciel qui blanchit à l'horizon, citadelle imprenable. À l'intérieur, pas un bruit. À peine quelques points lumineux noyés dans l'obscurité, une odeur de mer, de rouille et de graisse. Béchir est là, avec son petit groupe d'une dizaine de militants du mouvement des travailleurs arabes, MTA. Un mouvement issu des comités de défense de la Palestine et dans lequel se côtoient intellectuels et ouvriers arabes. Ils se tiennent à une dizaine de mètres de l'entrée principale, serrés les uns contre les autres, surexcités, tremblant d'angoisse dans l'air frais du petit matin. Hier, toute la journée et toute la soirée, à la Ciotat, ils sont passés de groupe en groupe, de café en café, de foyer en foyer, avec un seul message: demain on arrête, pas un travailleur arabe ne vient embaucher, halte au massacre, demain on va se faire respecter. Une frustration et une colère immense, qui n'avaient pas encore trouvé de voie pour se dire, se donnaient enfin un mot d'ordre: demain, on arrête tout.
Demain, on arrête tout. Oui, c'est un peu ce mot d'ordre qui va se généraliser à La Ciotat, à Marseille, et qui permet de soutenir en fait la famille de Malek Kider, puisque la mort du jeune va être considérée comme un véritable événement et non plus comme une algarade entre jeunes de la même banlieue. En fait, beaucoup de monde va soutenir le mouvement, non seulement les travailleurs de La Ciotat, non seulement les travailleurs de Marseille, mais aussi les syndicats des travailleurs français et un certain nombre de militants des partis de gauche. Un nouveau mouvement va s'organiser autour du départ du corps de Malek Kider pour l'Algérie, puisque en fait la famille souhaite qu'il ne soit pas enterré en France, mais que son corps reparte en bateau pour l'Algérie. Donc le cortège ne sera pas un cortège d'enterrement, mais un cortège qui se dirige de l'habitation de la famille jusqu'au port.
Vers 14 heures, beaucoup de monde sur l'esplanade autour de la fourgonnette. Un public très masculin et très jeune, maghrébin et français mélangé. Des amis de Malek, des compagnons de travail de Mohamed et d'Adèle, quelques voisins de campagne l'évêque, des inconnus de la cité de transit toute proche et des militants, beaucoup de militants, MTA et gauchistes français mêlés. Et puis, un petit groupe qui tranche par son âge, sa tenue, sa cohésion. Deux prêtres, un pasteur, trois religieuses. Ils s'affichent, ils vont défiler jusqu'au port, ils sont salués de toutes parts. Le portrait de Malek se distribue de main en main. Le cercueil sort de l'immeuble, porté par quelques compagnons du père et par les deux frères. La foule fait tout à coup silence. Le cercueil est déposé dans la fourgonnette, les deux frères s'asseyent à côté du cercueil et la fourgonnette commence à avancer lentement. Béchir et ses amis organisent le cortège. Les deux premiers rangs sont formés par les militants du MTA, dont chacun porte un portrait de Malek. Derrière, la foule des manifestants, ponctuée çà et là des portraits du mort, et sur les côtés, de petits groupes du service d'ordre, composés en grande majorité de militants français d'extrême gauche, glissent le long de la manifestation, l'œil aux aguets, prêt à tout, sans savoir à quoi s'attendre. En juin dernier, à Grasse, les habitants ont attaqué un rassemblement d'ouvriers tunisiens à la matraque parce qu'une manifestation d'immigrés sur le sol français leur était intolérable. Alors, ni banderoles, ni slogans. La consigne est de défiler dans le silence. Elle est rigoureusement respectée par les centaines, le millier peut-être plus, de participants. Le gouvernement algérien, muet jusqu'à aujourd'hui, commence à bouger et à réclamer que la police française fasse son boulot. Le gouvernement français sera obligé de suivre. Pétrole et essais nucléaires dans le Sahara, il ne peut pas prendre le risque de se brouiller avec l'Algérie. Et si les assassins perdent l'appui de leur gouvernement, ils cesseront d'assassiner. Mais il ne faut surtout pas laisser retomber la pression. Il faut la maintenir et même l'augmenter. Décidons pour le 3 septembre, dans 2 jours, une grève des travailleurs arabes dans tout le département des Bouches-du-Rhône. C'est le moment. Pendant qu'il parle, 2 militants ouvrent les cartons et distribuent des affichettes d'appel à la grève du 3 septembre, certaines sérigraphiées, d'autres peintes hâtivement à la main, noir sur blanc, en français et en arabe, émouvantes dans leur tracé hâtif. Lundi 3 septembre, journée de deuil. À la mémoire des victimes innocentes du racisme, grève générale des travailleurs arabes, MTA. Les militants sont survoltés. À La Ciotat, la grève des travailleurs arabes répondait à des agressions directes sur les lieux mêmes, assassinats, fusillades, incendies. Un succès inespéré, d'accord, mais une grève défensive et locale. Maintenant, un cran au-dessus, appel à une grève offensive des travailleurs arabes sur tout le département, un nouveau saut dans l'inconnu. Tu crois que ça va marcher? Je n'en sais rien, mais on est sur une dynamique positive. Tu sens toute cette énergie et cette rage qui nous porte. Il ne faut pas lâcher.
Il ne faut pas lâcher, c'est ce que pensent les travailleurs qui soutiennent la famille de Malek, et c'est ce que pense justement la famille de Malek de son côté. Dans une ambiance de paranoïa générale, les pièges, les sabotages de preuves sont le quotidien des enquêteurs qui essayent de les soutenir. Il y a comme un réseau de comploteurs omniprésents qui freinent toutes les avancées du dossier. Le commissaire d'Aquin ne peut compter que sur son équipe et la famille de Malek, elle-même, admirable de dignité, de pugnacité, qui continue son combat pour la vérité. Nous allons vous laisser maintenant au cœur de cette intrigue, au cœur de ces combats. On a vu que le roman de Dominique Manotti est à la fois un policier et une étude sociopolitique de ce qui s'est passé cette année-là, à Marseille 73. Donc Marseille 73, c'est un grand roman policier et on vous invite toutes et tous à aller voir vers la fin comment ça se termine. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres aventures et même peut-être pour d'autres voyages. Au revoir.
Au revoir.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda Malaika.